La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission spéciale Indépendance. Nous revisitons chaque semaine un épisode de la décolonisation. Comment les Africaines et les Africains l'ont-ils vécu? Comment les grandes figures intellectuelles et politiques du continent se sont-elles battues? Et jusqu'où la France s'est-elle compromise pour maintenir son emprise coloniale? 60 ans après l'année magique, cette fameuse année 60 où 17 pays africains accèdent à la souveraineté nationale, je vous invite au bal des indépendances, au son de nos archives sonores et musicales.
Indépendance, cha-cha, aux oubliés.
Le Cameroun est libre et indépendant.
Vive la Fédération du Mali, vive la communauté des peuples libres.
Je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
Mes chers compatriotes voltaïques, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
L'indépendance de la Côte d'Ivoire.
L'indépendance de la République gabonaise.
C'est le bal des indépendances dans la marche du monde. Deuxième épisode, la décolonisation selon Frantz Fanon. Frantz Fanon est un psychiatre, un militant anticolonialiste. Il est né à la Martinique en 1925 et il est mort à Washington en 1961 à l'âge de 36 ans. Colonisé et descendant d'esclaves, Frantz Fanon a consacré la fulgurance de sa vie à militer pour la libération des peuples de l'Afrique. Redécouvrir la décolonisation selon Frantz Fanon, c'est d'abord entendre la voix du militant anticolonialiste, entendre les mots de celui qui, en 1956, 5 ans avant sa mort, donne une conférence légendaire à la faculté de la Sorbonne à Paris. Écoutez ce premier extrait de Racisme et culture. C'est la conférence de Frantz Fanon au Congrès international des écrivains et des artistes noirs.
Le racisme vulgaire, primitif, simpliste, prétendait trouver dans le biologique la base matérielle de la doctrine. Forme comparée du crâne, quantité et configuration des sillons de l'encéphale, caractéristiques des couches cellulaires de l'écorce, dimension des vertèbres, etc. De telles affirmations brutales et massives cèdent la place à une argumentation plus fine. C'est ainsi que la labilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Cowles, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état à partir d'arguments scientifiques d'une lobotomie physiologique du noir. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré. Physiologiquement. C'est très important parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique puisque normalement il est lobotomisé.
Le public de Frantz Fanon applaudit à son brillant discours. Frantz Fanon rappelle à quel point les théories raciales européennes sont aberrantes et infondées. Mieux vaut en rire, effectivement, plutôt que d'en pleurer. Je rappelle que nous sommes en 56. Magali Besson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour commenter ces magnifiques archives Fanon. Vous êtes philosophe et vous signez l'introduction de la réédition des œuvres Fanon. 4 livres, Peau noire, masque blanc, l'an 5 de la révolution algérienne, Les damnés de la terre, mais aussi Pour la révolution africaine, autant de titres qui annoncent tout de suite les obsessions de Fanon.
Ses obsessions, ses intérêts, ses enjeux politiques, son engagement.
Alors vous connaissez très bien sa vie et son œuvre. Comment vous pourriez nous présenter le rôle de Fanon, sa pensée dans l'histoire des luttes de libération africaine ?
Alors, c'est un rôle qui se déroulerait en plusieurs temps, je dirais. D'abord, avec l'ouvrage « Peau noire, masque blanc » qu'il a écrit en 1952, il réfléchit sur la condition du noir en France, parce qu'il se trouve à Lyon à ce moment-là. Et c'est là où il met en place toute une réflexion encore vraiment d'actualité sur ce que signifie d'être noir en France, c'est-à-dire se regarder par les yeux d'un autre, ne pas avoir la pleine conscience de soi, être aliéné par sa peau, en fait, par son apparence.
Donc Fanon, c'est d'abord celui qui réfléchit sur qu'est-ce que c'est être noir en France.
Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'il commence, d'une certaine manière. C'est-à-dire son parcours d'engagement, et c'est ça qui est intéressant, est d'abord un parcours d'engagement sur sa propre situation, mais avec un regard décalé, c'est-à-dire l'Antillais qui vient à Lyon et qui, là, se découvre noir tout d'un coup. Et c'est ça, ensuite, que d'ailleurs, les Afro-Américains, lorsqu'ils liront Fanon, prendront immédiatement dans sa pensée. Parce que vous parliez de lutte d'émancipation, mais il y a évidemment les luttes des Afro-Américains tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, qui vont aboutir à l'émancipation, qui s'approprie ce Fanon-là, le Fanon qui parle des Noirs. Et puis il y a le deuxième temps chez Fanon, celui qu'on connaît peut-être plus en France avec Les Damnés de la Terre, publié en 1961, et il faut souligner qu'il n'y a que 9 ans finalement entre ces deux livres. Vous avez dit à quel point il est mort jeune, à quel point le discours qu'on a entendu en 56 est seulement 4 ans avant sa mort, ou 5 ans avant sa mort, mais c'est seulement 4 ans après l'écriture de son premier ouvrage. Donc on est vraiment dans une période extrêmement ramassée.
Et juste avant les indépendances. Hein,
et juste avant les
déferlantes des indépendances, absolument. Des années 60.
Absolument, vous avez entièrement raison. On est juste avant les accords d'Évian, mars 62, pour l'indépendance de l'Algérie. Il meurt avant, il meurt en décembre 61. Il n'a même pas la chance de voir ce pourquoi il s'est profondément engagé en tant que, pour le coup, que militant, pas simplement que penseur, mais que psychiatre engagé, que rédacteur du journal du FLN en Algérie, c'est-à-dire ce qu'il appelle, comme vous l'avez dit, la révolution algérienne. Pas simplement l'indépendance algérienne, mais la révolution. Il s'agit bien pour Fanon de faire un monde nouveau. Pas simplement un monde qui se serait détaché des anciennes dominations, mais un monde qui se recrée sur de nouvelles bases.
Alors dans le premier extrait que nous avons entendu, Fanon s'attaque au racisme scientifique. Cela veut dire qu'en 1956, 4 ans, on vient de le souligner avant la grande vague des indépendances africaines, la bonne société européenne adhère toujours à ces vieilles théories du 19e siècle.
Ma foi, je crains que la vieille société européenne, parfois, n'adhère encore aujourd'hui à ces vieilles théories obsolètes du 19e siècle. Et je serais étonnée qu'on ne trouve pas aujourd'hui encore des références à ce que Fanon appelait les trois grandes caractéristiques, celles du noir, de l'arabe ou du juif. Je pense qu'on pourrait encore entendre aujourd'hui dans certains discours, peut-être extrémistes, de telles aberrations.
Cela veut dire qu'on fait appel à la science, notamment la biologie, la cranériologie, je crois que ça s'appelle comme ça. On va chercher en fait des raisons pseudo-scientifiques pour valider un discours raciste, pour expliquer au fond que le corps, le cerveau, le squelette d'un noir et celui d'un blanc ne seraient pas les mêmes.
Oui, alors ça c'est très très intéressant. C'est une affaire qui remonte au XVIIIe siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières. Mais dans ces lumières, il y a une énorme part d'ombre, et cette part d'ombre, c'est bien celle de lumière qui se pense et qui pense l'homme de manière scientifique, et en cherchant des critères, alors je dis scientifique à chaque fois, vous ne le voyez pas à la radio, mais avec des gros guillemets, des critères scientifiques qui permettent en réalité de classer l'homme. Toute l'ambition qu'on voit apparaître avec les lumières et qui se propage jusqu'au XXe siècle, c'est celle du classement du monde, de l'organisation du monde pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir le faire sien. Dans ce classement, il y a inévitablement un classement des races, c'est-à-dire de ces grandes catégories biocomportementales qui font à la fois appel à la biologie ou disons au début, au frémissement de la biologie et à l'analyse comportementale, psychologique, culturelle, émotive, morale, etc., pour créer des entités qui ne bougent pas et qu'on appelle des races. Et chaque individu est assigné à une race et chaque race est à sa place dans l'ordre du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se met en place avec les Lumières, dont le 19e hérite et dont le 20e siècle hérite tragiquement avec les grands génocides du 20e siècle qui utilisent cette idéologie scientifique pour détruire des races, des groupes entiers.
Magali Besson, ouvrez grand vos oreilles, on écoute Fanon et on compte sur vous pour l'explication de texte juste après.
Dans une première phase, on a vu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. La race inférieure se niait en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée, la race inférieure se nie en tant que race différente. Elle partage avec la race supérieure les convictions, doctrines et autres attendus la concernant. Ayant assisté à la liquidation de ces systèmes de référence, à l'écroulement de ce schéma culturel, il ne reste plus à l'autochtone qu'à reconnaître avec l'occupant que Dieu n'est pas de son côté. L'oppresseur, par le caractère global et effrayant de son autorité, en arrive à imposer à l'autochtone de nouvelles façons de voir, singulièrement un jugement péjoratif à l'égard de ses formes originales d'exister. Cet événement, désigné communément aliénation, est naturellement extrêmement important. Ayant jugé, condamné, abandonné ses formes culturelles, son langage, son alimentation, ses démarches sexuelles, sa façon de s'asseoir, de se reposer, de cracher, de rire, de se divertir, l'opprimé avec l'énergie et la ténacité du naufragé se rue sur la culture imposée.
Le colonisateur aliène le colonisé, nous dit Frantz Fanon, lui fait perdre son identité. Et ne nous y trompons pas, la vraie motivation du colonisateur, ce n'est pas la mission civilisatrice annoncée, non, c'est bien le pillage des ressources de l'Afrique.
La guerre coloniale est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée. L'asservissement, au sens le plus rigoureux de la population autochtone, est la première nécessité. Pour cela, il faut briser ces systèmes de référence. L'expropriation, le dépouillement, la razzia, le meurtre objectif se doublent d'une mise à sac des schèmes culturels, ou du moins conditionnent cette mise à sac. La mise en place du régime colonial n'entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire de l'observation historique que le but recherché est davantage une agonie continuée. La momification culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle. L'apathie, si universellement signalée des peuples coloniaux, n'est que la conséquence logique de cette opération. Le reproche de l'inertie, constamment adressé à l'indigène, est le comble de la mauvaise foi. Comme s'il était possible à un homme d'évoluer autrement que dans le cadre d'une culture qui le reconnaît et qu'il décide d'assumer.
Cette voix qui vous parle à travers le temps, c'est celle de Frantz Fanon, le militant anticolonialiste, et celle qui va nous expliquer les mots, c'est Magali Besson, philosophe. On vous écoute.
J'ai repéré un certain nombre de choses intéressantes, effectivement, dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, quelque chose qui est chez Fanon fondamental, me semble-t-il, c'est la mise en parallèle permanente de ce qu'il appelle la razzia économique et la mise à sac culturelle. C'est-à-dire que, au fond, dans le processus de colonisation qu'il dénonce, dans le processus de domination qu'il dénonce, la domination est toujours en même temps socio-économique et culturelle. C'est-à-dire, pour Fanon, dans la mesure aussi où il est psychiatre, l'idée est de désaliéner non seulement sur le plan matériel, de rendre, comme le dit Fanon, aux autochtones leurs ressources propres, qui sont pillées par les colons, mais c'est également de désaliéner psychologiquement et culturellement les Algériens, de manière à ce qu'ils se réapproprient leur forme culturelle, dit Fanon, leur conduite, y compris jusqu'au comportement. Fanon dit danser, marcher, cracher, s'habiller.
Et on voit que la colonisation, c'est bien au-delà de la colonisation des terres, c'est aussi la colonisation des esprits, donc nous dit Fanon. Alors je vous propose de retrouver au téléphone une autre grande fan de Frantz Fanon. J'appelle Françoise Vergès. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Françoise Vergès, vous êtes politologue. Vous lisez, vous relisez Fanon, vous écrivez vous aussi sur Fanon. Selon vous, en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme politique, quel est l'impact de Fanon sur la vie intellectuelle et politique antillaise et française?
Son premier texte, Peau noire, masque blanc, aura pas un grand impact dans la vie intellectuelle, on peut dire. Il sera connu surtout des gens qui lisaient Les Temps modernes et Esprit. Et il sera en fait connu plus tard. Mais c'est surtout son travail avec les Damnés de la Terre et son travail comme intellectuel qui a rejoint les rangs des nationalistes algériens qu'il sera connu. Et son livre, Les Damnés de la Terre, aura un énorme impact dans le monde africain, dans le monde américain, sud-américain et nord-américain et aux Antilles.
Aujourd'hui, où de nombreux intellectuels, chercheurs, historiens, c'est une réflexion à laquelle vous participez également, Françoise Vergès, s'interrogent sur les Noirs de France. Est-ce que Fanon est la première référence en ce qui concerne cette réflexion sur être noir dans un monde de blanc, sur être noir et français ?
Je crois qu'il faut relire non seulement Fanon, mais aussi évidemment Césaire, mais pas seulement, mais aussi Blaise Diagne. Il faut réhabiliter toutes les personnalités, toutes ces femmes et ces hommes qui nous ont précédés. Et vous le disiez, la France noire, Sophie, montre la longue présence africaine en France, sous différentes composantes, antillaises, venues d'Afrique ou d'ailleurs. Et toutes ces personnes ont permis à la France d'aller parfois plus loin sur la question de la justice, sur la question de l'égalité, sur la question de la liberté. Sans les esclaves, par exemple, sans les luttes, le terme de liberté n'aurait pas la signification qu'il a aujourd'hui. Et de même, le terme d'égalité. Donc oui, Fanon s'adresse à la fois aux personnes qui viennent d'Afrique, mais aussi aux personnes qui viennent d'Europe. Il a, dans ses textes pour la Révolution africaine ou l'enceinte de la Révolution algérienne, des tas de textes qui s'adressent aussi à la gauche européenne, à la gauche française, qui, je pense, sont d'actualité. Jusqu'à où êtes-vous prêt vraiment à embrasser la diversité ?
Françoise Vergès évoquait à l'instant le livre « Les damnés de la Terre », extrait, juste avant d'entendre le commentaire de la femme de Fanon.
Donc, camarades, ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons l'apporter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leur société et de leur pensée, pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf.
On écoute Josy Fanon.
Effectivement, il y a plusieurs aspects dans cet appel de Fanon pour se détacher du modèle occidental. Bon, il y a l'aspect psychologique qui est très important, il y a l'aspect, disons, culturel en général, mais il y a aussi un aspect qui est contenu là-dedans, qui est l'aspect économique. Et finalement, je pense qu'on vérifie maintenant cette nécessité d'imposer un nouvel ordre économique mondial, et surtout pour les pays du tiers-monde, de trouver des voies nouvelles pour un développement économique qui soit peut-être pas en contradiction avec l'Europe, mais qui ne soit plus calqué sur celui de l'Europe. Parce que tous les pays du tiers-monde qui ont essayé de faire un développement économique, de mettre sur pied un développement économique qui imite celui de l'Europe, on fait faillite finalement.
Il n'y a pas de missionnaire, pas de fardeau blanc. Pas d'éthique blanche, pas d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des humains qui cherchent. Fais de moi toujours un homme qui interroge.
« Les mots de Frantz Fanon dans La Marche du Monde, des mots dictés par l'auteur à son assistante Marie-Jeanne Manuelan, aujourd'hui disparue. Marie-Jeanne avait publié en 2017, sous la dictée de Fanon, aux éditions de l'Armourier. Elle avait d'ailleurs décidé de donner l'ensemble de ses droits d'auteur à la Fondation Frantz Fanon. Quelques années auparavant, elle m'avait raconté sa rencontre avec Fanon à Tunis.
Frantz Fanon, je ne savais pas du tout qui c'était, moi. Quand je suis arrivée dans le service, j'ai vu le surveillant d'abord, qui a frappé à la porte du bureau de Fanon, qui est sorti, qui m'a regardé d'un air très distant, et qui m'a tendu une main molle, en regardant ailleurs, et ça a été vraiment réfrigérant. Hein. J'étais la seule Française dans le service, et Fanon, je ne le savais pas à l'époque, mais il était engagé dans la guerre d'Algérie, et il devait se demander qui on envoyait dans son service, pourquoi. J'ai compris ça longtemps après. C'était en 58, ça, au centre neuropsychiatrique de jour, à l'hôpital Charles-de-Nicolle, à Tunis. Un jour, Fanon a mis son nez dans ma porte et m'a dit « Vous voulez travailler dans ton rude ?» J'ai dit « Mais oui. Je vais avoir besoin de vous pour écrire un livre. » Pour moi, c'était faramineux. Moi, j'ai quand même eu des grands-parents analphabètes. Alors, le livre, c'était vénéré dans ma famille. Il m'a dit, vous savez taper à la machine. J'ai dit, non, mais j'apprendrai. Il m'a dit, vous viendrez à l'hôpital à 7h du matin. Et de 7 à 9, je vous dicterai le livre. Débrouillez-vous pour trouver une machine. Débrouillez-vous, c'était son mot. Je me suis dit, je vais m'acheter une méthode, une petite machine à écrire, d'occasion. Mais évidemment, je ne pouvais pas apprendre à taper en 8 jours. Mais j'ai réfléchi, je me disais, moi, j'écris vite. Si au lieu de m'obliger à prendre à la machine, il me permettait de le prendre à la main... Après, je taperai tout doucement chez moi. Alors, on a fonctionné comme ça. Fanon n'avait pas la moindre note. Ni pour l'an 5, ni pour les années, il n'avait jamais la moindre note. Alors, j'étais assise à son bureau et lui marchait. On aurait dit que les mots jaillissaient de son corps en marche, vous voyez. Bien sûr, il y avait des pauses. On voyait qu'il réfléchissait. Mais c'était quand même rapide, hein. Bien sûr, je n'étais pas idiote, je pensais qu'il avait pensé à tout ça dans sa tête avant. Une fois, j'ai oublié la fin d'une phrase, j'ai été distraite une seconde, donc j'ai levé mon crayon, alors il s'est arrêté de marcher, j'ai dit j'ai oublié la fin de votre phrase. Alors on a essayé de la retrouver, on n'est pas arrivé, ni l'un ni l'autre. Alors, il a dit une autre phrase qui s'accordait parfaitement avec la précédente, et il a dit d'un ton ironique, il ne faut pas laisser se perdre une miette de ma précieuse pensée, mais d'un ton ironique, vous voyez. Les livres de Fanon, ils sont faits pour être dits. Je pense que j'étais sa première auditrice. Je vous dis, c'était quelque chose de parler. Fanon, c'est une façon nouvelle. Les couteaux rouges, les boulets sanglants, la ville coloniale qui est une ville coupée en deux, des choses violentes, mais vraies. Hein, il me semble que le mot, c'était un acte.
Sous la dictée de Fanon, c'est le titre du livre témoignage de Marie-Jeanne Manuelan et c'est aux éditions L'Armourier. Avant de retrouver la voix de Frantz Fanon grâce aux archives de l'INA, je me tourne vers vous, Magali Bessonne, vous qui êtes philosophe et qui signez l'introduction de la réédition des œuvres de Fanon, éditions La Découverte. J'aimerais que vous nous racontiez dans quelles circonstances Fanon quitte sa terre natale des Antilles pour rejoindre l'Algérie.
Alors c'est une histoire intéressante et qui se déroule en plusieurs temps. D'abord, à 18 ans, Fanon quitte les Antilles pour s'engager dans la libération de la France. On est en 1945 et en 1943, il s'engage et puis il va une première fois en Algérie rejoindre le bataillon numéro 5, composé de volontaires antillais qui rallie en Afrique du Nord la 2e division blindée
du général Leclerc
qui remonte jusqu'en Alsace. Puis il est démobilisé, il retourne aux Antilles, passe le bac et là décide d'aller en France faire des études de médecine. Une fois en France, à Lyon, il opte pour la psychiatrie et à l'issue de son internat, demande explicitement à être nommé à l'hôpital de Blida-Joinville en Algérie où il va chercher à mettre en œuvre une technique et tout un ensemble de réflexions qu'il a apprises auprès d'un psychiatre catalan, François Toquel, et qu'on appelle la désinstitutionnalisation de la maladie ou la thérapie institutionnelle ou sociale thérapie, c'est-à-dire l'idée que le malade est au cœur de la cure et qu'il n'est pas simplement un patient passif, mais qu'il doit être agent actif de sa propre guérison. Et en Algérie, ils mettent en place à l'hôpital de Blida cette désaliénation du malade parallèle à la désaliénation politique du colonisé.
Donc cela veut dire au fond que son expérience de psychiatre va nourrir sa réflexion politique et qu'il va essayer de penser comment décoloniser, désaliéner une société tout entière de la même façon qu'il travaille lui sur des individus.
Absolument. Je crois que chez Fanon, l'engagement psychiatrique et l'engagement politique sont absolument indissociables et c'est tout en même temps en travaillant sur ce qu'il appelle la conscience ou l'esprit du colonisé et sur la société tout entière colonisée que Fanon travaille par la petite histoire individuelle et la grande histoire politique à cette mise en place d'un nouveau monde où il n'y aurait plus de dominants ni de dominés. Lorsqu'après 3 ans d'exercice, il décide de démissionner de son poste à cause justement de la guerre d'Algérie qui est en train de se mettre en place, il écrit au ministre résident Lacoste que la folie est l'un des moyens qu'a l'homme de perdre sa liberté. L'Algérie étant en déshumanisation systématique, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, c'est dans cette idée-là que Fanon s'engage en vue de la réalisation de la liberté.
Et aux côtés donc du FLN, du Front de Libération Nationale Algérien, il va également écrire pour le journal du FLN. Alors en 1956, Frantz Fanon participe au premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris. Ça, c'est un événement. Et il donne sa célèbre conférence intitulée « Racisme et culture ». On continue à entendre la voix de Fanon dans la marche du monde.
On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. L'importance du problème raciste dans la littérature américaine contemporaine est significative. Le nègre cinéma, le nègre et le folklore, le juif et les histoires pour enfants, le juif au bistrot sont des thèmes inépuisables. L'œuvre de Faulkner, dans cette perspective, est un traité d'anatomie microscopique du racisme. Le racisme, pour continuer avec l'Amérique, hante et vicie la culture américaine. Et cette gangrène dialectique est exacerbée par la prise de conscience et la volonté de lutte de millions de Noirs et de Juifs visés par ce racisme. Sans oppression et sans racisme, pas de blues. La fin du racisme sonnerait le glas de la grande musique noire.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Fruit, chante Billie Holiday. J'ai eu envie d'associer ce poème dédié aux Noirs, dont les cadavres sont les fruits étranges, suspendus aux arbres du racisme dans le sud des États-Unis, avec la pensée de Fanon. Magali Besson, noir, juif, même combat, nous dit Fanon lorsqu'on l'écoute.
Oui, Fanon raconte que son professeur de philosophie lui avait dit « Prête bien l'oreille quand les Blancs parlent des Juifs parce qu'en fait, ils parlent de nous. »
De nous les Noirs.
De nous les Noirs. Donc il y a dans la manière dont les Juifs et les Noirs sont constitués en Juifs et en Noirs, c'est-à-dire de l'extérieur par le regard de l'autre, une véritable similitude. Néanmoins, le juif n'existe comme juif que quand il est, dit Fanon, dans Peau noire, masque blanc, dépisté. C'est-à-dire que Le noir a quelque chose qui le rend encore plus immédiatement constitué en objet par les blancs, c'est sa peau. C'est l'évidence ou la pseudo-évidence du regard. Le blanc croit voir immédiatement le noir. Alors que le juif, c'est quand même pas si évident. C'est bien la raison pour laquelle les nazis avaient mis en place toute une série de tests pour savoir qui était juif et qui ne l'était pas.
Alors ce qui est très intéressant dans le discours de Fanon, nous allons l'entendre, c'est qu'il invite le colonisé à reprendre ses esprits, à se libérer, à trouver son identité, mais il invite aussi le colonisateur à le faire. Il considère que le colonisé et le colonisateur sont prisonniers d'un même système, un système qui rend fou.
Le racisme boursoufle et défigure le visage de la culture qui le pratique. La littérature, les arts plastiques, les chansons pour midinette, les proverbes, les habitudes, les patterns, soit qu'il se propose d'en faire le procès ou de le banaliser, restitue le racisme. C'est dire qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peuvent être racistes inconsciemment. Nous le disons encore une fois, le racisme n'est pas une découverte accidentelle, ce n'est pas un élément caché, dissimulé, il n'est pas exigé d'efforts surhumains pour le mettre en évidence. Le racisme crève les yeux, car précisément il entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhontée d'un groupe d'hommes par un autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. C'est pourquoi l'oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible, légitime le racisme.
Pas facile, nous dit Frantz Fanon, de s'émanciper d'un système colonial qui rend fou, et c'est un psychiatre qui parle.
Retrouvons la tradition, la vivant comme mécanisme de défense, comme symbole de pureté, comme salut, le déculturé laisse l'impression que la médiation se venge en se substantialisant. La culture encapsulée, végétative, depuis la domination étrangère, est revalorisée. Elle n'est pas repensée, reprise, dynamisée de l'intérieur, elle est clamée. Et cette revalorisation d'emblée, non structurée, verbale, recouvre des attitudes hautement paradoxales. C'est à ce moment qu'il est fait mention du caractère indécrottable des infériorisés. Les médecins arabes dorment par terre, crachent n'importe où. Les intellectuels noirs consultent le sorcier avant de prendre une décision, etc. Le passé, désormais constellation de valeurs, s'identifie à la vérité. Au sortir de ces épousailles passionnées, l'Autochtone aura décidé, en connaissance de cause, de lutter contre toutes les formes d'exploitation et d'aliénation de l'homme. Nul néologisme ne peut masquer la nouvelle évidence, la plonger dans le gouffre du passé est condition et source de liberté. La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national.
Frantz Fanon croule sous les applaudissements lors de sa conférence au premier congrès des écrivains et artistes noirs. Je rappelle que nous sommes en 56 et que la question des indépendances en Algérie et en Afrique noire est au cœur de l'actualité. Alors que veut nous dire Fanon, Magali Besson, comment faire pour les opprimer, pour se libérer du joug colonial ?
Alors je crois que Fanon veut dire un certain nombre de choses, parmi lesquelles d'abord... Le racisme n'est pas l'affaire d'individus, mais l'affaire d'une société tout entière. Fanon défend ici une position qu'on appelle le racisme institutionnel, c'est-à-dire l'idée que ça n'est pas tant une question d'insulte individuelle, mais plutôt de tout un système économique, idéologique, et l'idéologie pour justifier la domination économique, telle que, à un moment donné, l'insulte devient acceptable, que le vocabulaire est dans l'air pour qu'on puisse, à un moment donné, proférer l'insulte. Mais l'insulte n'est qu'un tout petit épiphénomène. Et le plus important, c'est plutôt que le système raciste de la colonisation fait crever de faim, comme dit Fanon, ceux qui sont au bas de l'échelle. C'est-à-dire, au fond, Fanon dit le racisme, c'est quand même une affaire qui concerne des gens qui bénéficient de toutes les richesses culturelles, économiques, sociales, politiques, et d'autres qui sont privés de tout accès à toutes les ressources matérielles et symboliques.
Alors, c'est en prenant le pouvoir par les armes qu'on peut s'en sortir ?
Alors, le deuxième point, c'est que cette inégalité est profondément violente. Et le pouvoir par les armes ne peut se prendre que parce qu'il se prend en réponse à une violence préalable. Et ça aussi, c'est un point extrêmement fondamental chez Fanon. Il y a une violence de la révolution, de l'indépendance. Elle est inévitable. Mais elle est inévitable parce qu'elle fonctionne un petit peu comme un élastique qui se détendrait après avoir été comprimé. Elle repose sur une violence préalable qui est celle qui s'exerce par le colon sur le colonisé. La réponse violente du colonisé n'est que cet élastique qui se détend. Et ça n'est pas une action violente. Donc oui, il s'agit bien de prendre le pouvoir par les armes pour s'approprier d'une certaine manière, à un moment donné, l'accès aux ressources matérielles et symboliques. Mais ce pouvoir ne peut être pris violemment que parce qu'il est d'abord empêché violemment.
Donc je vous propose de retrouver maintenant un des membres de la Fondation Frantz Fanon à Paris, Omar Bendera. Omar Bendera, bonjour et merci d'être avec nous pour cette marche du monde consacrée à l'œuvre et à la pensée de Frantz Fanon. Omar Bendera, en ce qui concerne l'Algérie et les Algériens, qu'est-ce que représente la figure de Frantz Fanon pour les Algériens ?
C'est une des dimensions universelles de la révolution algérienne. Fanon était un militant, donc effectivement, il a, lui, contribué grandement au rayonnement panafricain, mais au-delà même de l'Afrique, au rayonnement international de la révolution algérienne.
Donc il a apporté cette dimension internationaliste au combat pour la décolonisation.
Il a très fortement contribué à renforcer cette dimension. Tout simplement parce que nous étions à l'époque dans une situation de bipolarité où il y avait d'un côté le camp socialiste dirigé par la grande URSS et les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Donc face à ce monde bipolaire, Fanon apportait une réponse autonome. Il n'était inféodé à personne. Il était à la fois africain, algérien, martiniquais, français, mais il n'était certainement pas membre d'aucune des grands courants idéologiques dominants de l'époque.
Omar Bendera, Alger a été une mecque hein, pour les révolutionnaires du monde entier. En ce qui concerne justement l'apport de Fanon à l'Algérie et à l'Afrique, est-ce qu'il a participé aussi au dialogue entre les Noirs et les Arabes ?
Oui, bien sûr, puisque il a été ambassadeur itinérant de la révolution algérienne et du GPRA au sud du Sahara, au Ghana notamment, mais pas seulement, en Guinée également, au Mali. Donc il a contribué fortement au rapprochement entre l'Afrique du Nord et l'Afrique sud-saharienne, incontestablement. Ce faisant, si vous voulez, il a contribué à briser des barrières qui ont été constituées très tôt par le colonialisme dans le cadre de la morcellisation et de la division des luttes politiques des peuples dominés.
Des barrières qui restent actuelles. Le dialogue n'est pas toujours évident entre Africains et Arabes et il y a une forme de racisme aussi qui perdure.
Oui, certainement. Vous avez bien vu, les derniers événements en Libye l'ont montré, les tyrannies ont intérêt à toujours désigner de faux ennemis pour pouvoir dormir tranquille. Donc en caressant dans le sens du poil des bas instincts ou des idéologies archaïques, en favorisant, si vous voulez, la dissémination de la maladie raciste dans la tête des populations, elles se garantissent un certain confort politique.
Donc ne nous trompons pas d'ennemis, nous dit Fanon à travers le temps.
Tout à fait. Une des clés de lecture les plus intéressantes de Fanon, c'est son absolue indépendance d'esprit, sa liberté totale vis-à-vis des dogmes, des clichés, des poncifs. C'est un homme neuf, Fanon.
Merci Omar Bendera et l'adresse du site de la Fondation Fanon est à retrouver sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr. Merci à vous. Et nous retrouvons maintenant Achille Membe, qui se trouve aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Achille Membe, bonjour.
Bonjour.
Dans la préface des œuvres de Frantz Fanon, vous écrivez « Il n'est aujourd'hui aucune région du monde qui n'ait d'une manière ou d'une autre accueilli le nom de Fanon ». Moi, j'aimerais, si vous le voulez bien, Achille Membe, que vous nous parliez plus particulièrement de l'Afrique du Sud. Comment la pensée de Fanon a-t-elle influencé la lutte anti-apartheid ?
L'Afrique du Sud, comme nous tous d'ailleurs, devons à Fanon l'idée selon laquelle il y a dans toute personne humaine quelque chose d'indomptable, de foncièrement inapprivoisable, que la domination, et peu en importe les formes, ne peut ni éliminer, ni contenir, ni réprimer, du moins totalement. Et l'Afrique du Sud s'est efforcée de mettre en pratique cette leçon fanonienne lors de la lutte contre l'apartheid, en même temps que dans des pratiques de pensée que l'on retrouve chez des auteurs comme Blog Modisane, comme Govan Mbeki et bien d'autres. Et donc, ces noces, je dirais, de la lutte et de la critique, on les voit encore à l'œuvre en Afrique du Sud aujourd'hui, notamment dans tout ce qui a trait à la lutte contre la pauvreté et pour la justice raciale.
Achille Mbembe, pour que le colonisé, l'opprimé, le dominé relève la tête, il faut aussi qu'il se donne des moyens et se pose la question donc de la lutte, et même de la lutte armée. Est-ce qu'il y a une conjugaison de points de vue entre Frantz Fanon et Nelson Mandela, par exemple? À quel moment la lutte armée devient-elle justifiée?
La lutte armée devient justifiée à partir du moment où il n'existe pratiquement aucune possibilité de renverser les systèmes de domination par la voie pacifique. D'ailleurs, Nelson Mandela, lui-même, dans les années 40, préconisait le recours à la lutte armée. Mais dans le cas sud-africain en particulier, on a très bien vu quelles étaient les limites de la lutte armée.
Achille Mbembe, donc la lutte armée comme un ultime recours, en quelque sorte, et en même temps que ce soit Frantz Fanon ou Nelson Mandela, pour les deux hommes, un attachement à Gandhi et à la théorie de la non-violence.
Oui, c'est-à-dire que dans le contexte colonial qui est, je dirais, la scène originaire de la pensée de Fanon, la violence, elle consiste pour le colonisé à se transporter de par sa force propre vers un lieu plus haut que celui auquel il a été assigné ou confiné pour cause de race ou en conséquence de la sujétion. Et ce faisant, il rouvre pour lui-même et pour l'humanité tout entière, en commençant par ses bourreaux, la possibilité, je dirais, d'un dialogue neuf et libre en deux sujets humains égaux, là où, auparavant, comme le rappelle très bien Fanon, le rapport opposait avant tout un homme, le colon, et son objet, l'indigène. Et du coup, il n'y a plus ni noir ni blanc, il n'y a plus qu'un monde, enfin, débarrassé du fardeau de la race, et dont nous devenons tous des ayants droit, ou je dirais des héritiers. Et je dirais donc que c'est ça la démarche fanonienne et celle de Mandela d'ailleurs.
Merci beaucoup Achille Mbembe et à très bientôt, je l'espère, dans la marche du monde.
À très bientôt, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Comment sortir de l'oppression? Comment les anciens colonisateurs et les anciens colonisés peuvent-ils vivre et construire ensemble? C'est aussi une préoccupation de Frantz Fanon, Magali Besson. Il ne s'arrête pas à l'idée de la lutte de libération nationale et panafricaine. Il va plus loin.
Alors, il va d'abord à l'encontre d'un discours qu'on entend aussi à l'époque et qui est celui de l'opposition entre le nègre et l'homme blanc, pour parler comme Fanon, c'est-à-dire cette idée que contre une mise en exergue des valeurs blanches de la colonisation, il faudrait désormais opposer des valeurs noires et les renforcer et en chercher l'authenticité, la substance, etc. Fanon, de ce point de vue-là, est opposé à une attitude assez critique à l'égard de la négritude, notamment de la branche de Senghor, et estime que sa vie ne doit pas être consacrée, dit-il, à faire le bilan des valeurs nègres. Donc il ne s'agit pas d'opposer face à face deux grandes cultures avec un grand C ou des valeurs, des systèmes valeurs qui seraient opposés. Il s'agit au contraire, contre ce face-à-face, d'essayer de produire un homme neuf. Un homme neuf qui serait donc un homme de l'universalisme, de l'humanisme, qui oublierait les couleurs de peau, les anciennes dominations, etc. Et l'on voit chez Fanon une angoisse, en tout cas un doute profond à l'égard de la possibilité de la construction de cet homme, notamment dans le monde de la guerre froide qui est celui de l'époque et qui fonctionne à base d'opposition caricaturale.
Alors pour une dernière fois, je vous propose d'entendre, comme si vous y étiez, à la Sorbonne en 1956, un extrait de la conclusion de Frantz Fanon à sa conférence « Racisme et culture ».
Afin de réaliser cette libération, la lutte est d'emblée totale, absolue. Mais alors, on ne voit guère apparaître de racisme. Au moment d'imposer sa domination, pour justifier l'esclavage, l'oppresseur avait fait appel à des arguments scientifiques. Ici, rien de pareil. Un peuple qui entreprend une lutte de libération légitime rarement le racisme. Même au cours des périodes aiguës de lutte armée insurrectionnelle, on n'assiste jamais à la prise en masse de justifications biologiques. La lutte de l'infériorisé se situe à un niveau nettement plus humain. Les perspectives sont radicalement nouvelles. C'est l'opposition désormais classique des luttes de conquête et des luttes de libération. Les anciens immobiles, les lâches constitutionnels, les peureux, les infériorisés de toujours, s'arc-boutent et émergent hérissés. L'occupant ne comprend plus. La fin du racisme commence avec cette soudaine incompréhension. La culture spasmée et rigide de l'occupant, libérée, s'ouvre enfin à la culture du peuple devenu réellement frère. Les deux cultures peuvent alors s'affronter, s'enrichir. En conclusion, l'universalité réside dans cette décision de prise en charge du relativisme réciproque de cultures différentes, une fois exclu irréversiblement le statut colonial.
Et oui, en 56, les écrivains, les artistes noirs se réunissent pour applaudir Frantz Fanon. Magali Besson, si le racisme ne fait pas partie du discours des leaders panafricains des indépendances, hein, on sait que pour autant, le racisme est un héritage de l'histoire qui empoisonne d'ailleurs, on le voit dans l'actualité, considérablement les sociétés d'Afrique, notamment je pense à l'Afrique du Sud, au Libéria, au Rwanda. Alors vous qui êtes philosophe, est-ce que vous croyez à cette société post-coloniale telle que l'imaginait Fanon ? Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle peut exister sur cette terre ?
Je dirais que si je ne pensais pas que nous pouvons travailler tous les jours à cette société post-coloniale, oui, je ne travaillerai pas sur Frantz Fanon, je ne travaillerai pas sur les objets qui sont les miens, qui sont la réflexion sur la justice raciale et la fin des discriminations. Je ne sais pas si c'est de l'utopie ou si c'est simplement ce qu'on pourrait appeler un idéal régulateur, c'est-à-dire une fin qui serait la nôtre et même si on ne l'atteint pas, notre devoir est d'essayer
de travailler dans ce
sans
sens-là.
Arrêt d'atteindre cette fin. Je pense que dans tous les cas, il faut avoir cet idéal en tête pour viser une société sans race.
Merci Magali Besson. L'intégralité des œuvres de Frantz Fanon et sa formidable biographie, pour la première fois traduite en français, sont donc parues aux éditions La Découverte. Et pour entendre Fanon, je vous conseille de vous connecter au site de La Marche du Monde. Vous retrouvez toutes les infos bibliographiques, musicales et aussi l'adresse du site de la Fondation Fanon.
Ils mettent leur vie au service d'un monde où le racisme serait impossible. Mais ce recul, cette abstraction, cet engagement solennel ne sont pas à la portée de tous.
La révolution de Frantz Fanon, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Isabelle Godineau. Écrivez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.
Et voilà pourquoi ton identité nationale, en fait, c'est bien du racisme. Même sous les habits d'intégration, c'est du racisme. L'immigration concertée, c'est bien du racisme. Quel que soit le jeu de mots choisi, c'est du racisme. Les queues devant les consulats, c'est du racisme. Délit de sale gueule pour des visas, c'est du racisme. Délit de pauvreté de l'Africain, anticamétisme. Pauvres et musulmans, c'est la totale, anticamétisme. Vire le noir de tout et de nos jours, c'est pire qu'hier. Résultat des courses, je lève le poing noir et fier.
La culture encapsulée, végétative, depuis la domination étrangère est revalorisée. Elle n'est pas repensée, reprise, dynamiquée de l'intérieur, elle est clamée. La plongée dans le gouffre du passé est condition et source de liberté. La fin logique de cette lutte est la libération totale du territoire national.